C'est ça qu'on attendait, c'est de qualifier juridiquement ce qui s'est passé à France Télécom. C'était une action volontaire et qui doit être réprimée. La peur doit changer de camp. C'est pas les gens qui travaillent à France Télécom ou dans des entreprises qui subissent du harcèlement managériel institutionnel qui doivent avoir peur. C'est les gens qui mettent en place ces politiques qui doivent avoir peur d'être pourchassés par la justice et amenés en prison.
Son père travaillait à France Télécom. Harcelé, il s'est suicidé. Et ce jeune homme a raison. Le jugement d'hier, qui condamne l'entreprise, qui condamne ses anciens dirigeants. Ce jugement peut marquer le moment où la peur change de camp. C'est une formidable nouvelle. Les entreprises, bien sûr, elles peuvent supprimer des emplois. Mais pour y arriver, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Là où la morale individuelle ne suffit pas, la justice place des limites. Ce jugement met à jour des mécanismes de management toxique. Il met en lumière une nouvelle définition de ce qui reste très difficile à prouver, le harcèlement moral. Alors réjouissons-nous, en Chine il y a 10 ans, Foxconn, un sous-traitant d'Apple, avait aussi connu une vague de suicides. Et que s'est-il passé? Eh bien, la direction de Foxconn a fait signer à chaque salarié un engagement de ne pas se tuer. Et ensuite, elle a installé des filets autour des bâtiments pour qu'ils ne se jettent pas dans le vide. Depuis, l'entreprise continue d'être pointée du doigt régulièrement sur les conditions de travail. Alors en France, en 2019, ce jugement met quelle avancée? C'est l'œuvre des juges, des avocats, mais aussi des syndicats et du CHSCT, oui, le comité d'hygiène. Et là, on voit leur immense utilité. Mais qui en doutait?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Samedi 21 décembre, bienvenue, c'est On n'arrête pas l'écho. Le réalisateur s'appelle Coy Nguyen, l'attaché de production Valentin Pérez et le technicien Arthur Le Breton. Les débatteurs sont là, ils ont tellement à nous dire sur la réforme des retraites. Oui, nous sommes tous pareils. Hein. Ça débat dans les couloirs, ça débat à la cantine, ça débat à la maison. Et ce matin, ça débat donc au micro d'On n'arrête pas l'écho. Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques, bonjour.
Bonjour à tous.
Et Emmanuel Lechypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
On se retrouve dans une poignée de secondes parce que la réforme, ça va être long, parce qu'on est loin du point final et parce que pendant ce temps, l'économie continue de tourner. Ce 21 décembre, on avait aussi envie de bonnes nouvelles, de vous raconter de belles histoires. Alors écoutez celle du luxe qui veut recruter 10 000 personnes par an sur les 5 ans à venir, 10 000 personnes par an. Reportage de Caroline Pommès. Et puis rencontrer avec nous ce matin un joaillier qui a rapatrié sa production d'Asie en Europe et surtout en France. C'est le président de Mauboussin, Alain Némarc. Il sera dans ce studio avec nous vers 9h45. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, est-ce qu'une belle histoire, j'ai commencé avec une triste histoire, mais est-ce qu'une belle histoire de vie au boulot, ça existe?
Oui, je vais vous raconter des belles histoires de Noël, au moins deux.
Au moins deux. Ah ben à tout à l'heure pour nos deux cadeaux, Sandrine. Voilà, vous avez le programme du Magéco dans l'oreille, vous avez sans doute le café ou le thé à la main. Alors si vous êtes prêts, on peut y aller, on peut parler de nos retraites, mais que va-t-il nous arriver?
« 19 décembre 2019.
Il me semble que nous pouvons tomber d'accord avec les organisations qui soutiennent la mise en place du système universel.
Édouard Philippe.
Pour améliorer encore le projet et sur la nécessité de construire l'équilibre.
Premier ministre.
Mais qu'il reste des désaccords sur la méthode et la façon d'y parvenir. Mais nous avons, je crois, la volonté de les surmonter. Il est donc important que le dialogue social continue au mois de janvier.
Il n'y a pas de scoop.
Philippe Martinez.
Le Premier ministre confirme qu'il veut mettre en œuvre un système par points.
Secrétaire général de la CGT.
Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, si ce n'est de nous dire « mais il faut qu'on se revoie pour qu'on se précise un certain nombre de choses sur la pénibilité, sur des mesures d'âge, etc. etc. » Donc c'est beaucoup de promesses, toujours des promesses. Il n'y a rien de concret. La seule chose qui est concrète, c'est que le Premier ministre n'a pas entendu la rue.
Le Premier ministre essaye de nous prendre dans une forme de piège.
Yves Verrier.
On nous propose des discussions très vite.
Secrétaire général de FO.
Mais avec une contrainte qui est que le projet de loi, il sera présenté au Conseil des ministres le 22 janvier. C'est confirmé. Donc il y a quand même peu d'illusions sur l'espace de la discussion.
Pour le MEDEF, les propositions qui sont mises sur la table,
Geoffroy Roux de Bézieux,
peuvent être discutées.
Président du MEDEF.
Y compris sur la pénibilité. Nous considérons que, en plus, avec toutes ces mesures qui ont été mises sur la table et qui ne sont pas chiffrées, il y a très clairement un besoin de financement du régime. Nous avons redit au Premier ministre que, pour nous, la ligne rouge, c'était les cotisations et les réserves.
Je ne peux pas dire qu'on n'a pas noté une volonté de dialogue et d'ouverture.
Laurent Berger.
Parce que
que ce serait malhonnête de ma part.
Secrétaire général de la CFDT.
Elle a permis sur certains sujets des perspectives d'avancer. Là où on a un désaccord, c'est sur les mesures d'équilibre de court terme, c'est-à-dire sur cet âge pivot.
Donc pour être très clair, vous redites ce matin, je veux que l'âge pivot soit retiré de cette réforme. Vous le redites ?
Oui, bien sûr. Pour une raison simple, c'est que c'est injuste.
Ce que nous avons indiqué, c'est que
Sibeth Ndiaye,
l'équilibre, on devait l'avoir réalisé en 2027.
Porte-parole du gouvernement.
Nous, on estime que la meilleure solution pour parvenir à l'équilibre, c'est de mettre en place progressivement un âge pivot. Mais si Laurent Berger réussit à convaincre Geoffroy Roux-de-Bézieux d'augmenter les cotisations patronales, qu'ils se mettent d'accord et qu'ils nous apportent cette solution-là.
Donc on a eu l'annonce du projet, c'était mercredi 11 décembre, et puis on a eu jeudi soir une prise de parole de nouveau du Premier ministre. On va essayer de comprendre où nous en sommes de ce projet de réforme des retraites. En attendant, dans les gares, les trains, les métros à Paris, la grève s'est peu atténuée. Christian, est-ce qu'on peut faire le point sur ce qu'ont obtenu les régimes spéciaux ?
Alors, le gouvernement, à mon sens, il a mis trois messages sur la table. Le premier, de toute façon, c'est la fin des régimes spéciaux. Donc ça, il recule pas de ce point de vue-là. Rappelons quand même, petite parenthèse historique, qu'à la SNCF, par exemple, pourquoi il y a un régime spécial ? Parce qu'il n'y en avait pas en France et que ce qui s'appelait pas encore la SNCF formait ses salariés pour les garder. Ils essayaient de leur donner une petite carotte. Ils ont créé une caisse particulière et c'est pour ça qu'il y a un régime spécial à la SNCF. Donc il y avait une vraie justification historique. A priori, à la RATP, il y a des négos d'entreprise. Et là, on nous dit qu'il y aurait des droits plus élevés, en gros, pour partir à la retraite. Donc, ça pourrait se débloquer à la RATP grâce à ça. Le Premier ministre a dit, attention, négo d'entreprise, c'est pas lui qui décide. C'est la direction de la RATP qui négocie avec ses syndicats. Et a priori, bon, évidemment, le gouvernement est derrière, bien sûr.
J'allais vous dire, c'est pas lui qui décide, mais bon, il y a...
Oui, mais il y a des marges de manœuvre à l'intérieur. Et visiblement, la patronne a décidé de laisser un peu plus d'argent, quoi, en gros, pour que à la RATP, ça aille mieux. Et puis à la SNCF, le Premier ministre, là pour le coup, il a dit on va prolonger les avantages pour les salariés actuels avec une réforme plus progressive et dans le respect des droits acquis. Ça veut dire quoi ? On va reculer le passage au nouveau système pour ceux qui sont déjà des salariés. Alors, c'est pas la clause du grand-père, c'est-à-dire on va pas dire à tous les salariés actuels, on vous touchera pas.
Il y en a 50 000 pour l'instant qui perdraient le statut, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, alors et ceux qui sont déjà au statut et qui sont déjà dedans, on va leur dire, bon écoutez, on va pas faire comme si la réforme s'appliquait pas, mais on va retarder l'application. Donc c'est pas la clause du grand-père, je dirais c'est la clause du vieux grand-père, c'est uniquement pour quelques années. Et puis combien ça coûte ? Parce qu'en fait, voilà, ça veut dire plus de sous. En fait, la Cour des comptes, il y a quelques mois, nous a fait un petit calcul sur SNCF, RATP et ce qu'on appelait EDF-GDF à l'époque, qui est devenu Engie. Ils ont dit ces régimes spéciaux, ils nous coûtent, pour ces quatre entreprises, 5,5 milliards. Mais il y a un effet démographique, comme pour le reste de la société française.
C'est le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de cotisants pour payer les retraites.
Voilà. Ouais. Mais à la SNCF, à la RATP, à EDF, GDF, enfin Engie, pareil que dans le reste de la société. Donc sur les 5,5 milliards que ça nous coûte, combien est dû à la démographie ? Donc combien est dû au fait que c'est pareil que dans toutes les autres sociétés ? Et combien est dû au fait qu'il y a un régime spécial qui fait que vous pouvez partir plus tôt, etc. La Cour des comptes nous dit, sur les 5,5 milliards, le régime spécial, ça coûte 1,8 milliard.
C'est-à-dire... Quand vous dites le régime spécial, certains disent les privilèges. Donc les privilèges,
oui, voilà,
les avantages.
Si vous êtes à BFM Business, on dira les privilèges. Et puis à Alter Eco,
pour l'instant BFM Business, il faut viser ses armes.
Mais je vois qu'il a son petit sourire, ça augure mal. Donc sur les 5,5 milliards, 1,8 milliard, donc simplement un tiers. Donc on est en train de se battre et de créer des mouvements de grève pour un truc qui nous coûte moins de 2 milliards par an, c'est-à-dire rien du tout.
Emmanuel Le Chypre, les régimes spéciaux.
Non, mais on voit bien que le chemin qu'on prend, c'est que dans ce genre de conflit, c'est très compliqué de faire que personne ne sorte perdant. Et c'est le but. Le but, c'est que personne ne sorte un peu ridicule de ce conflit. Donc, on voit bien que finalement, l'architecture, et notamment sur tout ce qui est régimes spéciaux, âge pivot à 64 ans, va sans doute rester, mais que tout ça va être aménagé de façon à ce que finalement les syndicats puissent dire, bah regardez, on a obtenu beaucoup d'avancées, et c'est exactement ce qui va se passer sur les fonctionnaires, puisqu'on voit bien que le nombre de fonctionnaires concernés par la réforme va être finalement très faible, et notamment les cheminots, enfin les régimes spéciaux de cheminots et la RATP, et que ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en place sans doute un système de bonification de points pour faire que finalement on calcule une retraite sur laquelle il ne soit pas perdant au moment de partir à la retraite. C'est-à-dire que le basculement entre l'ancien et le nouveau régime se fera avec un capital de points qui au départ fait que bah finalement ils seront pas perdants et que personne ne perdra dans ces régimes-là au système. C'est sans doute ce chemin-là qu'on prend. Puis il y a des avancées sur effectivement la retraite progressive, le salaire, la retraite minimale. Non, il a fait pas mal d'avancées.
On va en parler, mais une dernière question si vous voulez bien sur les régimes spéciaux. Il y a certains observateurs qui disent oh là là, on s'oriente vers une réforme à la Sarkozy, hein, affichage sur les régimes spéciaux, vous allez voir ce que vous allez voir, et au final,
bah oui,
ça va coûter très cher.
Bah exactement.
C'est exactement ce qui se passe.
Non, attendez, coûter très cher, au maximum 1,8 milliard. Donc on va prendre une petite partie là-dessus, parce qu'évidemment, on va pas supprimer hein, ces 1,8 milliard. Ce qu'on vient de dire avec Emmanuel, c'est on va prendre un salaire de référence qui est plus élevé que ce que la réforme aurait permis de faire si on l'avait appliqué tel qu'elle était dessinée à l'origine.
Est-ce qu'ils vont rester spéciaux très très longtemps, ces régimes?
Bah, ils vont rester spéciaux un peu plus longtemps. Comme l'a dit Emmanuel, on va donner un peu plus d'avantages, mais c'est pour ça que j'ai rappelé au début qu'ils vont quand même disparaître.
Et c'est la différence avec la réforme Sarkozy. Au-delà des régimes spéciaux, c'est ce que vous avez dit Emmanuel, hein, il y a eu quelques ouvertures, l'idée c'est de comprendre leur importance. Quand on dit par exemple, quand le Premier ministre dit qu'il va faire des ouvertures sur la pénibilité, de quoi est-ce qu'on est en train de parler?
Alors, la pénibilité, c'est normalement 4 critères et le gouvernement, à fin 2017, en a supprimé 8 critères, pardon, le gouvernement
10 critères.
Bah oui, mais ouais. qu'on regroupe. Enfin, le gouvernement en a enlevé 4, voilà. Dont 2 extrêmement importants, qui sont la manutention de charges lourdes et l'exposition à des produits chimiques. Et ça, c'est quand même des choses très très pénibles, l'exposition aux produits chimiques. Donc on réintègre pas les 4 critères supprimés à la demande du MEDEF en 2017, mais Premier ministre nous a dit on va peut-être pouvoir abaisser les seuils pour pouvoir gagner des points, par exemple en travail de nuit, pouvoir travailler 110 heures au lieu de 120 heures, 30 heures au lieu de 50, etc. Donc là, il a lâché quelques petites choses, on pourra avoir plus facilement des points. Il nous a même dit, normalement, vous gagnez des points dès que vous avez 2 critères. Si vous en avez un troisième, si vous êtes exposé à 3 critères, normalement, vous ne gagnez pas. D'ici, peut-être que, y compris sur 3 critères, vous pourrez gagner des points. Et puis, on va essayer de faire des choses sur la reconversion des gens qui travaillent en milieu difficile pour les sortir de là. Donc, il y a quelques petites avancées, mais comme pour les régimes spéciaux, le cœur du truc, à savoir les critères importants, style manutention, produits chimiques, on ne va pas les réintégrer.
Oui, c'est ça, il n'est pas encore
question. Donc, c'est des petites aventures.
Il n'est pas du tout question de mettre ces 4.
Non, pas du tout.
Ça va se négocier, ouais.
Oui, c'est là où on voit que les négos sont, enfin les marges de manœuvre sont quand même très encadrées.
Oui.
Hein, c'est-à-dire qu'on dit, finalement, on vous renvoie à la négociation entre syndicats patronaux et syndicats de salariés. C'est aussi vrai sur le sujet des cotisations ou pas, puisque la piste, hein, toujours cette obsession de vouloir équilibrer l'ancien régime avant de faire la réforme.
On va en parler, Manuel.
Effectivement,
c'est le sujet.
Non, ouais. Mais le gouvernement dit, oui, ok, sur la pénibilité, je vous renvoie aux discussions entre vous sur la hausse des cotisations aussi. Or, on sait très bien que ces deux sujets sont des sujets sur lesquels la confrontation est vraiment frontale entre syndicats de patrons et syndicats de salariés. On sait très bien, par exemple, que le débat sur la pénibilité, ça fait 25 ans qu'il a lieu, ça fait 25 ans que ça n'avance pas, et parce qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes pistes. Et idem sur les cotisations. Vous doutez bien que le MEDEF, la CPME, sont totalement vent debout contre une augmentation des cotisations.
Juste sur une avancée, le minimum retraite, c'est quand même important, Christian?
Oui, c'est important. Le gouvernement nous avait dit au début 1000 euros à partir de 2022 pour une carrière complète.
85% du SMIC.
Alors,
voilà.
1000 euros, normalement, qui montait jusqu'à 85% du SMIC en 2025, là, le gouvernement, le Premier ministre nous a dit, on pourra peut-être monter au-delà de 85%. La CFDT, Laurent Berger, a dit, on veut un SMIC, donc 100%. Rappelons quand même que c'est ce gouvernement-là qui a refusé qu'on applique la règle des 85% du SMIC aux salariés, enfin, aux retraités de l'agriculture.
Donc, on peut appeler ça une ouverture.
Donc, on peut appeler ça une ouverture parce qu'ils ont fait exactement l'inverse il y a quelques mois. Donc, est-ce qu'ils sont crédibles? C'est ça le problème.
Alors, on en vient à votre sujet, Emmanuel. Évidemment, vous avez entendu le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, dans notre zapping. Ces concessions, ces compensations, ça va coûter. Et voilà une raison de plus, à ses yeux, pour travailler plus longtemps. Et c'est ça la proposition du gouvernement. Dès 2022, on aurait un âge dit d'équilibre, équilibre financier, bien sûr, à 64 ans, en plus de l'âge légal à 62 ans. Sur ce point-là, est-ce que l'exécutif, lorsque Édouard Philippe a pris la parole jeudi soir, est-ce que ça a bougé?
Alors ça a bougé sur un point, c'est qu'il a quand même fait une ouverture majeure qui est une espèce d'âge pivot un peu à la carte. Parce que là, ce qui choquait vraiment les syndicats de salariés, c'était de dire cet âge pivot, son entrée en vigueur arrive très vite, hein, puisque c'est dès 2022 que chaque année on repousse la limite de 4 mois.
On travaillerait 4 mois de plus en 2022, puis on arriverait à 64 ans.
Et que surtout, ça concernait tout le monde. Et donc là, ce qui nous dit quand même Édouard Philippe, c'est que on va pouvoir penser à des aménagements, c'est-à-dire que oui, on va pouvoir prendre en compte la pénibilité, faire que il y a des métiers dans lesquels cet âge pivot ne sera pas de 64 ans. C'est quand même une avancée considérable. Mais c'est bien pour ça qu'on voit que la stratégie globale, c'est bien ça. La stratégie globale, c'est effectivement de faire des concessions sur tous les leviers, de jouer sur tous les curseurs pour que l'architecture globale de la réforme demeure et que d'un autre et que le gouvernement puisse dire regardez, j'ai fait passer ma réforme, et que les syndicats puissent dire mais regardez tout ce qu'on a obtenu. Et donc je pense que ça se terminera comme ça. Pourquoi il y a cette obsession de l'âge pivot? Parce qu'en fait moi je comprenais pas
très
bien.
Ah, c'est une bonne question ça.
Mais non, mais
en fait,
je
comprends pas compris. Ouais.
Non mais si, c'est très clair en fait.
Pourquoi
moi je me disais je comprends pas cette obsession de vouloir équilibrer l'ancien régime au moment de basculer dans le nouveau régime, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est les conditions d'équilibre fondamentales du nouveau régime. Mais la réalité, c'est que la seule façon d'équilibrer le nouveau régime, comme dans l'ancien, ce sera de travailler plus longtemps. Et que c'est pour ça que vous avez besoin de cet âge pivot. Pourquoi vous êtes obligé de travailler...
Ça. Non, c'est pas un raisonnement, ça.
Mais si, mais non. Parce que dans un vrai système à points, la réalité, c'est que...
Il n'y a pas besoin d'âge pivot.
Il n'y a pas besoin d'âge pivot. Pourquoi? Parce que ce qui s'ajuste, c'est la valeur du point. Or là... On a décidé qu'on n'ajusterait pas avec la valeur du point, puisqu'il y a une règle d'or qui fait que le point, il sera aligné sur l'augmentation des salaires et qu'il ne baissera pas.
Mais oui, mais il y a un taux de conversion. Oui, mais vous oubliez un élément fondamental, c'est que, y compris si la valeur du point ne baisse pas...
Qui sera fait par les partenaires sociaux.
Mais non, pas du tout.
De toute façon, on sera obligé de travailler plus longtemps.
Le taux de conversion, il sera calculé en fonction du temps qui vous reste à vivre au moment où vous prenez votre retraite. Vous la prenez à 50 ans, à 60, à 70 ans, et on calculera le taux de conversion de cette valeur du point. Et donc, de toute façon, votre retraite, elle diminue. Plus vous partez tôt, plus votre retraite diminue, plus vous partez tard, plus elle augmente. C'est équilibré en permanence. C'est ça que veut Macron, un système équilibré en permanence qui joue sur quoi? Sur la baisse des pensions. Alors, évidemment.
La question, c'est l'urgence 2022, Christian. La question, c'est
2025.
La réforme à point, c'est 2037, et voilà. On nous dit dès 2025.
Dès 2025, il faudra que ce soit équilibré, ouais. Mais rappelons encore les chiffres de base. Le Conseil d'orientation des retraites nous a dit entre 8 et 17 milliards de déficit à l'horizon 2025. Hausse de cotisation ou pas, si Beth Ndiaye a dit si vous vous mettez d'accord, allez-y. Pas la baisse des pensions, évidemment, travailler plus longtemps, mais quand même, il y a deux pistes qui sont quand même dingues, quoi. La CADES, ce qui rembourse le trou de la Sécu, ce sera fini en 2024. On va avoir, en euro 2024, plus de 20 milliards. Plus de 20 milliards pour financer un déficit entre 8 et 17. Et sinon, quand même, on emprunte 200 à 230 milliards par an. Si vous pensez que vraiment vous avez un problème de déficit à 10 milliards, mais qu'on emprunte, gratos à...
Tous les ans, Christian?
Mais tous les ans, on emprunte 230 milliards, ouais. Entre 200 et 230 milliards chaque année. Là, il nous manque 10 milliards, mais empruntons 240 au lieu de 230. C'est gratuit.
C'est une bonne idée,
Emmanuel. L'argent est gratuit. Si vraiment vous êtes inquiet,
c'est gratuit. Ce qui est difficilement compréhensible, c'est qu'on ne soit pas prêt à mettre, je concède à Christian l'expression de petit chèque, pour garantir la survie d'une réforme qu'on juge engageante pour la stabilité de l'économie française sur quasiment le siècle à venir. C'est-à-dire que ce gouvernement ne soit pas capable de mettre, allez, on va se le faire à une dizaine de milliards d'euros, qu'il soit pas capable de les mettre sur la table, parce que ce qui peut se passer, parce que là on peut se demander si finalement est-ce qu'il va aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il compromet la mise en œuvre d'une réforme structurelle qui nous engage pour longtemps, tout ça parce qu'il ne veut pas mettre sur la table 10 milliards d'euros, alors qu'on sait que l'unité de
Laurent
compte
Berger
aujourd'hui
sort de ce corps.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est qu'on sait
qu'est-ce qui s'est passé
de compte
là,
aujourd'hui, c'est le Macron, hein. C'est-à-dire que le Macron, c'est 17 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il se passe un problème, paf, les gilets jaunes, 17 milliards d'euros. Et ça a été lâché quand même très très vite.
Oui, mais enfin là, c'est tout le déficit qu'on nous montre.
Il y a un argument que je vous livre, mais ça n'est pas un argument de débat pour nous, parce que c'est un argument politique. Moi, tous mes petits camarades qui suivent de très près, qui scrutent la vie politique, etc., disent que dans l'entêtement d'Édouard Philippe sur cet âge pivot, il y a une dimension politique qui est de conquérir et de satisfaire un électorat de droite qui est attaché à tout ça. Bon, après, c'est pas dans notre terrain de jeu, donc je n'irai pas plus loin. Mais je pense que c'est une dimension qu'on ne peut pas exclure. Voilà, qui nous échappe avec notre rationalité de journaliste économique, ouais. Mais qu'il faut prendre en compte.
Et c'est notre terrain de jeu. Vous avez bien fait de vous arrêter là, mais vous l'avez dit quand même, Emmanuel Le Chypre. De toute façon, on va en reparler. Hein. Il y a rendez-vous en janvier, c'est ça l'idée. Hein. Il va y avoir de nouveau des réunions à Matignon avec des syndicats et puis un mouvement de mobilisation le 9 janvier. Donc, messieurs, trêve du débat. Je vous propose de nous aérer un peu et de partir à Bruxelles.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour Alexandra.
Pierre, vous suivez pour France Inter les travaux de la Commission européenne et au siège au Berlaymont. On vient de recevoir un appel urgent de 8 grandes villes, Paris, Bordeaux, Amsterdam, Vienne, Bruxelles, Berlin, Munich et Barcelone. De quoi veulent parler ces villes ? Du commerce électronique et de la location de meublés touristiques. En bref, elles veulent parler d'Airbnb. Elles veulent de nouvelles règles. Et Pierre, ce qui inquiète ces 8 villes européennes, c'est le problème du logement abordable.
Effectivement. Et alors, par esprit de contradiction, je prendrai par exemple une ville qui n'est pas dans cette liste des 8 qui a inquiété la Commission, à savoir Lisbonne. Pour ceux qui se sont déjà promenés dans la Fama, ce quartier populaire de la capitale est envahi par les touristes qui y louent très souvent via Airbnb. Et les Lisboètes sont chaque année moins nombreux à y résider. Autre exemple, celui de Paris, cette fois, où il est avéré que des bénéficiaires de logements sociaux mettent leur studio ou leur appartement en location sur le site. Pour les 8 villes européennes qui ont écrit hier à la Commission, c'est évidemment Airbnb qui est dans le collimateur, mais toutes les plateformes numériques sont visées parce que, à travers l'augmentation des locations de meublés, la pénurie de logements abordables s'est installée, véritablement. Demande de logements à la hausse et parc immobilier à la baisse sont les deux pierres d'achoppement qui privent les habitants de logements entiers, selon ces 8 villes. Autre sujet de préoccupation pour elles, le refus des plateformes de partager des données pertinentes pour le respect de la réglementation.
Et Pierre, est-ce qu'on peut imaginer que la Commission va donner suite à leur appel? Est-ce que ces villes peuvent imaginer qu'elles auront un jour gain de cause sur des géants mondiaux comme Airbnb?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement une vraie préoccupation de ce type-là, d'autant plus depuis avant-hier, parce que la Cour de justice de l'Union européenne vient de donner raison à Airbnb face à une association professionnelle française du secteur hôtelier. La plateforme était accusée par cette association d'exercer une activité d'agent immobilier sans détenir de carte professionnelle, bref, de ne pas se plier à la réglementation française. La Cour de justice a rejeté leurs arguments, estimant que, au sens de la directive européenne, Airbnb n'était rien d'autre qu'une société de service de la société de l'information. Les associations d'hôteliers appellent à réviser cette directive qui date déjà de 2000 et où on parle encore de CD-ROM ou de fax. Il est cependant très probable que la Commission européenne s'en saisisse parce que, d'une part, la réforme des règles de concurrence et, d'autre part, la mise en place d'un véritable marché intérieur européen du numérique sont au sommet de l'ordre du jour de la nouvelle Commission européenne, en particulier du commissaire au marché intérieur, Trier et Breton.
Pierre Benazé en direct avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, merci à Christian Chavagneux, à Emmanuel Le Chypre. Et puis je vous ai dit ce samedi, nous avions envie de vous raconter aussi de belles histoires. Alors notre invité dans 10 minutes, ce sera le président de Maubousin. On va parler de rapatrier une production en France, Alain Némarc. Voici un visage souriant de l'économie française, un secteur qui se porte très bien, la mode et le luxe. Ça représente plus de 600 000 emplois directs et aujourd'hui qu'on se le dise, la filière elle embauche. Pour s'en rendre compte, nous suivons notre reporter Caroline Pommès. Au nord de Paris, à Pantin, voici un des centres d'apprentissage du maroquinier Hermès.
Bonjour.
Bonjour.
Vous appelez comment ?
Je m'appelle Cédric.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Je suis en train de griffer mon soufflet.
C'est-à-dire griffer mon soufflet ?
Je fais les marques, les différents points pour coudre ensuite mes soufflets sur le corps du sac.
Donc ça, c'est un sac qui va finir à la vente ?
C'est ça, c'est bien ça. Même information, on fait des sacs pour la vente.
Et comment ça se fait que vous êtes retrouvé dans les ateliers Hermès à faire cette formation ?
Je viens pas du tout du milieu du cuir, donc j'ai fait une reconversion il y a 2 ans à peu près, non 3 ans même. À la base, j'étais web designer. Et donc, au bout d'un moment, au bout de 13 ans, j'ai eu un peu marre de rester derrière l'écran et de faire toujours un peu les mêmes créas.
Et pourquoi Hermès ? C'était pour Hermès ou c'était pour le travail manuel ?
C'est sûr, je pensais pas du tout arriver chez Hermès à la base. Je restaure un peu des trucs chez moi, je suis un peu assez manuel. Donc c'est arrivé un peu comme ça par hasard. Je regardais des vidéos pour faire une selle pour une de mes motos. Et je me suis mis à acheter un petit bout de cuir, voilà, acheter du fil et faire mes coutures. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je suis ici.
Et vous en avez pour combien de temps encore avant d'arriver dans les ateliers ?
C'est pour bientôt.
Et donc vous allez signer quoi ? Un CDI ? Comment ça se passe ?
Non mais j'ai déjà le CDI en fait, depuis un an. Mais on apprend encore, donc je suis encore en formation, mais avec mon CDI.
Bon bah très bien, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Dans les entreprises de la mode et du luxe, en 2020, il y aurait 10 000 emplois à pourvoir. Et ce sera la même chose, nous disent les professionnels, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024. Alors afin d'éviter toute pénurie de main-d'œuvre, la filière est en train de se mobiliser pour organiser de plus en plus de formations. Dans les grandes maisons, ça se passe souvent en interne. On retourne à Pantin, saluer le chef du pôle maroquinerie. Allez, quelques marches à monter, toujours avec Caroline Pommès.
Alors, donc nous allons rencontrer Monsieur Emmanuel Pommier, voilà, qui est juste à l'étage. Bonjour.
Bonjour madame.
Caroline Pommès, France Inter.
Donc Emmanuel Pommier, je suis le directeur général du pôle artisanal Hermès Maroquinerie Sellerie.
Donc je viens de rencontrer un des apprentis d'Hermès qui est en formation. Ils sont combien ici, dans ce centre de formation, à être apprentis ?
Nous recrutons et formons entre 40 et 50 artisans par an ici. Et nous avons aussi sur tous nos pôles qui sont en croissance en province, on en a 6 en ce moment, de Bordeaux, Montreux, en Seine-et-Marne, Saint-Julien, en Haute-Vienne, la Normandie. Et là, on recrute de la même façon 2 promotions par an, entre 20 et 30 artisans.
Ça dure combien de temps ces formations ?
On est sur un processus de 18 mois pour atteindre un premier niveau. Et je dirais qu'il faut attendre pratiquement 5 ans pour avoir une belle maturité, être capable de maîtriser en autonomie plusieurs modèles de sac et plusieurs cuirs.
On dit que le monde du luxe a du mal à recruter, notamment en production. Est-ce que vous avez du mal à trouver de la main-d'œuvre ?
On ne peut pas dire qu'on ait du mal. Maintenant, il faut expliquer, il faut communiquer. Mais à chaque fois qu'on fait appel à candidature, on travaille beaucoup avec Pôle emploi. Pour l'instant, on arrive à trouver des jeunes, des moins jeunes, beaucoup de personnes en reconversion, beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, les choses changent aussi. On voit que petit à petit, la reconnaissance du métier artisanal, en tout cas chez nous, se confirme. Et les gens adhèrent à ça.
Donc pas de difficulté à recruter pour les grandes maisons, c'est plus dur en revanche pour les plus petits, les sous-traitants. 72% des dirigeants de PME et des entreprises de taille intermédiaire de la filière ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. C'est le cas de Stéphane Marseille que j'ai rencontré. Il est patron de Mode Passion, une PME installée à 20 km de Rouen. C'est compliqué pour lui de remplacer ses employés qui partent à la retraite. Bonjour.
Stéphane Marseille, directeur général de Mode Passion.
Donc là, on est au cœur de votre atelier. Qu'est-ce que vous faites ici ? On voit qu'il y a des dames qui sont en train de coudre. Qu'est-ce que vous sortez comme produit ?
Ici, essentiellement de la maille.
Donc on est en plein milieu de la filière habillement.
Oui, en effet, avec des éléments, on va dire, assez pointus et une clientèle assez haut de gamme.
Il y a combien de personnes ici qui travaillent ?
Là, ici, il doit y en avoir 35, 36, je pense, en machine.
Quel métier il y a là ? On peut voir, donc devant nous, c'est une couturière.
Des piqueuses, des surjeteuses, des machines multiples aiguilles.
On voit qu'il y a des postes qui sont libres, c'est parce qu'il manque du monde, parce que vous cherchez du monde ?
On cherche du monde, assurément, mais elles sont en multipostes, en fait, c'est-à-dire qu'elles sont polyvalentes.
Et vous cherchez du monde, donc ? Vous cherchez combien de personnes en ce moment ?
Si on avait une dizaine de salariés, on serait bien.
Supplémentaire,
oui, bien sûr. C'est toujours très tendu parce que pour retrouver quelqu'un, il ne faut pas un an, il faut plus que ça. Pour la former, il faut un temps non défini.
Ça vous coûte combien de former des personnes ?
Par an, on doit dépenser pour une petite unité comme la nôtre aux environ 50 à 80 000 euros à peu près.
Et ça, chaque année, ou vous espacez les centres de formation ?
Chaque année. Alors je pense que maintenant...
Sur un chiffre d'affaires de combien ?
De 2 millions d'euros à peu près.
Il y a 8 ans, le groupement de la fabrication française, association financée par les industriels de la mode, a créé la maison du savoir-faire et de la création. L'objectif, rebooster les entreprises de la filière et sauver le savoir-faire français. Karine Leclerc en est la responsable. Comment se fait-il que ces métiers n'attirent plus et qu'il y ait des problèmes pour recruter dans ce secteur-là ?
Alors, je pense que c'est multifacteur. Déjà, il y a quand même, bon ça on le sait, en France, on a un vrai problème d'image sur les métiers de la fabrication. Ça fait peut-être 20 ans, je pense, qu'on dévalorise les métiers parce qu'on a, à l'inverse, justement, survalorisé le tertiaire avec également cette politique de tous les jeunes Français qui devaient avoir leur bac général. Donc ces filières techniques ont été dévalorisées et abandonnées et trop souvent, les personnes qui y vont par dépit mais pas par passion. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième, qui est plus particulier à l'industrie du vêtement, c'est que dans les années 70, 80, 90, il y a vraiment eu un gros phénomène de délocalisation où là, On a eu un grand nombre de licenciements en France. Donc, on a une population qui a été traumatisée parce que soit eux-mêmes ont été licenciés, soit un membre de leur famille. Et conseiller aujourd'hui à son enfant de travailler dans cette filière quand vous avez vous-même été licencié, on peut comprendre que ça soit compliqué. Et après, effectivement, c'est aussi des métiers qui sont méconnus. Dans les villes, on n'a pas de vitrine sur les ateliers. Ils sont généralement dans les régions. Enfin, on voit des ateliers de boulangerie, etc., mais on ne voit pas d'ateliers de confection. Donc, ce sont des métiers qui ne sont pas connus. Il n'y a pas d'information auprès du jeune public.
Et pourtant, il existe des formations pour travailler dans l'industrie du luxe.
C'est assez étrange parce que, de par les missions de la Maison du Savoir-Faire, je suis amenée à aller dans les écoles, dans les lycées professionnels. Et sur une classe de 25, vous avez entre 3 à 7 élèves qui se destinent réellement à travailler pour la filière. Les autres veulent partir faire autre chose.
Branle-bas de combat donc au sein de la filière pour redorer l'image de ces métiers. Le comité stratégique de la filière Modelux lance le 15 octobre dernier une campagne de recrutement sur Internet et sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes.
On vend combien ?
Guillaume Dessène est le patron de la filière et président du comité Colbert qui regroupe les grandes maisons françaises. Donc on est sur le site savoirpourfaire.fr. Donc on peut le voir, il y a différents onglets, c'est ça, hein. Donc sur les filières, on a également les différents métiers, formations, offres d'emploi qui sont mises en ligne, sur lesquelles on peut cliquer directement, c'est ça ?
Absolument. Voilà, nos offres d'emploi, alors ça n'est qu'une sélection, hein, c'est pas du tout, il y a quelques centaines d'emplois, mais vous voyez, bijoutier, joaillier, responsable de ligne de production pour la couture, etc. C'est très précis, avec des localisations, Bretagne, Pays de la Loire, Hauts-de-France. Donc c'est pratiquement dans toute la France, et avec un panel de métiers très différents.
Donc il y a du travail, vous annoncez quand même 10 000 emplois par an pendant 5 ans. Où est-ce que sont les offres aujourd'hui, dans quelle filière ?
Entre la mode, donc le prêt-à-porter, la confection, et puis les métiers de la maroquinerie, et dernier volet, qui est très dynamique, les métiers de la joaillerie et de la bijouterie.
Est-ce qu'il y a des métiers dans ces filières qui sont en danger, en voie de disparition ?
Il y a des métiers qui sont, sinon en voie de disparition, en tout cas pour lesquels il faut absolument assurer la transmission des savoir-faire. Ne serait-ce que le métier de mécanicien régleur pour les machines à coudre, eh bien c'est un métier dont on a besoin. Ce ne sont pas beaucoup d'emplois, mais ce sont des emplois absolument cruciaux pour le reste de la filière.
Il y a un an, le comité a donc signé un contrat stratégique avec le gouvernement pour notamment investir dans la formation et créer une grande école de la mode. Alors, est-ce que cela sera suffisant ? Pour Franck Delpal, économiste et professeur à l'Institut français de la mode, si la filière mode et luxe veut conserver sa force, elle doit y mettre plus d'énergie.
Les grands leaders du secteur ont les capacités, ont les moyens, ont les ressources de développer en interne des outils pour la formation de leurs salariés, mais ça ne peut constituer l'unique horizon d'une politique industrielle ou une politique de formation en France. Il faut aussi compléter ces initiatives qui sont louables par une vision globale et un soutien également à des métiers qui sont peut-être jugés moins stratégiques par ces maisons-là, mais qu'il est nécessaire de préserver et de transmettre. Et globalement, ce qui me paraît intéressant et sur lequel on peut insister, c'est l'adéquation entre les formations existantes aujourd'hui et le luxe tel qu'il va se vendre à l'avenir. Pour ne citer qu'un exemple, aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de personnes qui se forment au stylisme de vêtements, à tous ces métiers-là, qui sont finalement bien pourvus en termes de formation, mais sur lesquels, en termes de métier, c'est pas forcément si dynamique que ça à la sortie, alors que des métiers comme la maroquinerie, les accessoires au sens large, tout ce qui va concerner aussi la mise en valeur d'une marque en dehors de ses produits, donc sur la direction artistique, sur l'image, etc., il y a des tonnes de métiers et finalement assez peu de formation en face. Donc il y a ce travail à faire entre les pouvoirs publics, les entreprises, d'essayer d'aligner au mieux les besoins, les carrières potentielles qui existent et la manière dont on forme les étudiants.
La vigoureuse santé du luxe à la française et son besoin de main-d'œuvre, c'était le reportage de Caroline Pommès.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Pour poursuivre la discussion, un joaillier bijoutier est avec nous en studio. Bonjour Alain Némarque.
Bonjour.
Vous êtes le président de Mauboussin, son actionnaire majoritaire depuis l'été dernier, ce sont les Galeries Lafayette.
Tout à fait.
Chiffre d'affaires 2018, 75 millions d'euros et 210 salariés. Mmh. Alain Némarque, est-ce que Mauboussin recrute ?
Oui, Mauboussin, cette année, a dû augmenter son effectif d'à peu près 10%. Et je pense qu'en 2020, on devrait augmenter notre effectif entre 15 et 20%.
Et ce sont des postes de... On parlait là des nouveaux métiers du luxe. Qui recrutez-vous ? Quel profil ?
C'est plutôt chez nous des métiers de commerçants, parce qu'en fait, on exerce notamment notre métier sur avec des magasins en propre, qu'on développe, y compris dans les métropoles régionales, puisqu'en fait, ma grande idée, c'est de reconquérir les centres-villes et de monter des magasins dans des villes considérées par les joailliers avant comme improbables, Chalon-sur-Saône, Angoulême, Valenciennes, etc. Et je pense qu'on a un potentiel de développement tout à fait important. Et donc, en fait, on recrute des gens avec quelquefois une expérience professionnelle acquise à l'extérieur, chez nos confrères, et quelquefois des gens qu'on forme complètement sur le terrain.
Alain Némarque, vous parlez des vendeurs parce que votre production, ce sont évidemment des sous-traitants. Avant ces sous-traitants, ils étaient en Chine, ils étaient en Inde. Je crois que vous aviez le même sous-traitant que Tiffany. Et puis depuis 5 ans, vous rapatriez cette production. 98% se fait désormais en Europe. Et combien en France ?
À peu près 65%.
Ça a été quoi le déclencheur il y a 5 ans ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce mouvement-là ?
En fait, je me suis dit que, à la fois pour des gestions, pour des raisons de logistique, pour des raisons d'accompagnement de la croissance, pour des raisons de service, c'est-à-dire arriver à diminuer le temps de fabrication, c'était mieux d'essayer de revenir en Europe. Finalement, on est dans un métier où la matière première compte beaucoup dans le prix de revient du produit, donc le poids de la main-d'œuvre est plus faible. Donc même si
ça
un
représente quoi le coût du travail ?
Grosso modo, la différence de coût de revient entre la France et et l'Asie, c'est compris entre 15 et 20%. Donc 15 à 20% avec à peu près 10% qui se rattrape sur les coûts de logistique. Donc finalement, la possibilité d'annoncer un Made in France ou une production en Europe, ce qui est quand même un avantage commercial et marketing tout à fait significatif.
Ça parle à vos clients ou clientes d'ailleurs ?
Oui, ça parle évidemment aux clients. Ça parle évidemment aux clients et en plus, il y a quand même, c'est l'expression de l'excellence française. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on est une très vieille maison, on est né en 1827, quand la création est réalisée à Paris, quand on crée de nouveaux produits quasiment en permanence, hein, puisque Mauboussin, c'est à peu près des nouveaux produits lancés chaque 6 semaines. C'est assez bien de pouvoir dire aux consommateurs qu'en fait, on est capable de faire ça parce qu'on le fait à côté de chez nous.
Donc le coût du travail ou le droit du travail, pour vous, ça n'est pas en France, ça n'est pas rédhibitoire ?
Non, pas, absolument pas. En tout cas, pas du tout pour les métiers du luxe.
Et est-ce que d'autres, vous voyez vos confrères, est-ce que les autres métiers du luxe ont aussi cette tendance-là à rapatrier ?
Je pense que c'est une opinion générale que l'on a dans le secteur, quelles que soient les disciplines du luxe.
Et chez vous, ça a fait augmenter les prix du bijou, finalement ?
Pas véritablement, parce que notre démarche vers la possibilité d'être plus près du consommateur, d'être plus accessible, a été continue. Alors, disons que c'est vrai qu'on est obligé de faire des prodiges, c'est vrai qu'on est obligé de travailler avec des marges qui sont un tout petit peu plus serrées. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que cette possibilité d'affirmer cette capacité créative, parce qu'on a des ateliers de proximité, en fait, quelque part, ça n'a pas de prix.
Alors, vous m'avez dit 65% en France. Pourquoi c'est pas 100%? Le reste, j'imagine, c'est l'Italie, l'Espagne. Pourquoi
c'est l'Italie
pas 100% en France?
Parce que tout simplement, c'est compliqué d'arriver à trouver des ateliers de production suffisants pour alimenter la croissance que nous avons. C'est-à-dire que, en fait, les ateliers sont pleins et quand on a un atelier qui travaille pour soi, on le partage pas vraiment avec d'autres. On est extrêmement jaloux quand même de nos process, ce qui veut dire que quand j'ai des confrères qui maîtrisent un certain nombre d'ateliers, ils n'ont pas forcément envie de les partager avec moi et c'est largement réciproque. Et donc, on est forcément un peu limité par des créations d'emplois qui sont pas forcément suffisantes parce qu'on n'arrive pas à former assez vite des gens. Et puis, vous savez, on est une industrie saisonnière. Ça, c'est vraiment la particularité de ce métier, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin du même volume de production toute l'année.
Et avant Noël, normalement. Évidemment, ça marche.
Bah, vous vendez à peu près 55% de votre année à partir du 15 octobre. Donc, vous avez besoin d'alimenter vos magasins à ce moment-là. Et là, vous n'avez pas la possibilité de trouver un appareil de production qui soit capable de vous alimenter comme ça.
Alain et Marc, justement, comment ça se passe en ce moment? Vous avez 63 boutiques en France, 14 boutiques en région parisienne. Écoutez, est-ce que les ventes sont touchées par cette mobilisation?
Écoutez, je pense qu'il faut d'abord reprendre ses esprits. Hein. 2019, ça a d'abord été, sur les 11 premiers mois de l'année, une très bonne année. Cette politique de création, d'accessibilité, ça nous a permis d'avoir une croissance cumulée à fin novembre de l'ordre de 8%. On connaît sur la première quinzaine de décembre indubitablement un retard de vente.
Combien ?
À peu près 15%. Pas compensé par le net, puisque sur le net, on a en gros une croissance de l'ordre de 5-6%. Donc on n'est pas en compensation. Mais vous savez, plus ça va, plus les gens achètent tard par rapport à la fin de l'année. Donc en réalité, on est le 21 aujourd'hui. Tout va se jouer sur les trois derniers jours de Noël et encore plus sur ce qui va se passer entre Noël et Nouvel An. Parce que l'année dernière, en fait, on avait eu entre Noël et Nouvel An un coup d'arrêt tout à fait important à cause des gilets jaunes. Cette année, en fait, on s'aperçoit que on fait notre chiffre plutôt sur les week-ends et moins sur la semaine, parce que les gens la semaine sont exaspérés par les conditions de transport qu'ils connaissent, notamment dans les grandes métropoles. Donc je ne suis pas extraordinairement inquiet. C'est extraordinairement désagréable, ça c'est clair.
Pour un commerçant, bien sûr.
Ouais, c'est exactement, ouais. C'est très désagréable. Et puis en plus, ça pourrait, disons que les événements que nous connaissons pourraient avoir affecté le comportement du consommateur. Est-ce que finalement, un conflit social à ce moment-là de l'année ne renforce pas une interrogation du consommateur sur sa capacité de consommer? Sur son envie de consommer. Moi, je pense que non, parce que je crois
vous
que...
Vous voulez dire des incertitudes, une inquiétude sur son pouvoir d'achat?
Ils sont français, vos consommateurs? Ouais, une espèce de sentiment de précarité, d'incertitude sur l'avenir.
Ils sont français, vos consommateurs?
Pardon?
Ils sont français?
Oui, très majoritairement. Au Boussin, je parle sur le chiffre d'affaires que nous faisons en France, qui représente 70% de notre chiffre. Le consommateur est national à hauteur de 85-88%.
Et pour l'instant, il n'était pas inquiet, ce consommateur, sur justement sa... qui quand même se paie là du luxe. On dit que c'est le luxe accessible au Boussin, mais c'est quand même un certain pouvoir d'achat. Là, pour l'instant, vous n'aviez pas senti d'inquiétude.
Bah, écoutez, en tous les cas, la croissance que nous connaissons depuis le début de l'année démontrait l'inverse. Donc, je crois qu'il faut, il faut se dire que le luxe, ou en tous les cas, le cadeau que vous allez offrir en fin d'année, c'est quand même une démonstration de l'amour que vous avez pour les gens qui sont autour. Quel que soit le climat dans lequel vous baignez, de toute façon, cette envie, ce besoin, vous le ressentez de la même manière. Et vous allez probablement aller vers les mêmes sources pour aller acheter les objets qui pour vous sont les meilleures preuves de l'amour que vous éprouvez pour l'autre. Donc il n'y a pas de raison fondamentale que les choses aient bougé. C'est vrai que l'angoisse actuelle, le désagrément, l'inquiétude, l'énervement sont des facteurs qui sont pas propices à une consommation forte, instantanée. Mais moi je suis pas par rapport à ça extrêmement inquiet.
Et les jeunes, ils vous suivent ?
Écoutez, oui.
Vous parliez du net tout à l'heure, c'est pour ça que je vous pose la question.
Bah, on a une très grosse croissance sur le net. Hein. Oui. Le net représentait, il y a en gros 3 ans, 3% de notre chiffre d'affaires. On va finir à 8 ou 9% cette année.
Alain Némarck, le président de la maison Mauboussin, pas très inquiet. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Sandrine, les belles histoires, voire les contes de Noël, ça marche aussi pour le boulot. Ce samedi, vous aviez envie de nous parler de juges, de salariés sur des chantiers et sur des plateformes.
Vous l'avez dit Alexandra, la belle histoire de Noël, c'est d'abord cette décision incroyable, inédite dans l'affaire France Télécom.
Ah, je vois que je suis pas toute seule. Hein,
ouais. C'était la première fois qu'une entreprise était poursuivie au pénal pour harcèlement managérial organisé. Les juges ont reconnu que les dirigeants avaient poussé des salariés à bout, parfois jusqu'au suicide. Hier, des chercheurs, juristes, syndicalistes de l'association Les Ateliers Travail et Démocratie ont immédiatement lancé un appel pour changer la loi, pour qu'elle prévienne mieux les pathologies psychosociales. Mais je voulais aussi revenir sur deux autres bonnes nouvelles. En juin, je vous avais raconté l'histoire de ces 25 Maliens sans papier, employés sur un chantier sur la très chic avenue de Breteuil à Paris. Ils demandaient réparation devant le conseil de prud'homme pour travail dissimulé. Et là aussi, c'était une première pour discrimination raciale et systémique. Mardi, ils ont gagné. L'entreprise du bâtiment devra leur verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à se partager.
Mais pourquoi parler de discrimination raciale et systémique ?
Parce qu'on peut parler d'un système hiérarchique pyramidal en fonction de l'origine. Parce qu'ils étaient maliens et sans papier, ils étaient volontairement affectés aux tâches les plus dures, les plus dangereuses du chantier. Ils devaient démolir des murs et des plafonds à la masse, sans gants, sans casque, sans chaussures de sécurité. Tout ça pour un salaire de misère et des blessures en série. L'avocate des ouvriers, Aline Chanu, s'est inspirée des travaux du sociologue Nicolas Jounin sur la gestion raciste de la main-d'œuvre dans le bâtiment. Ces ouvriers qui sont tous appelés Mamadou par les chefs de chantier, une façon de les désigner comme un ensemble interchangeable et de nier leur vrai nom. Cette décision sur la discrimination systémique, organisée comme à France Télécom, mais sur le plan des origines, devrait faire jurisprudence. La deuxième belle histoire réjouira les livreurs et les chauffeurs de VTC. Les juges du Conseil constitutionnel ont partiellement censuré hier les chartes sociales de la LOM sur les mobilités. Les chartes, ces chartes élaborées par les plateformes elles-mêmes, devaient compliquer la tâche des juges pour requalifier les contrats commerciaux des indépendants en contrat de travail. Les juges reprennent leur marge de manœuvre, leur pouvoir d'appréciation, et c'est tant mieux.
Sandrine Foulon, voilà des belles histoires. Ma vie au boulot. Pour nous réécouter, pour réécouter Sandrine, pour réécouter les débatteurs, abonnez-vous au podcast On n'arrête pas l'écho. Et puis pour nous écrire, ça se passe sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Le Mag Écho baisse le rideau. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end.